Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir adoré l'épisode avec Frédéric Lopez, le 112, pour ceux et celles qui souhaitent l'écouter ou le réécouter. Et Fred, il était allé avec Thomas Pesquet chez les Indiens Kogi. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, je reçois Éric Julien, qui est le fondateur de Chenjukua, qui est une association qui aide les Indiens Kogi. C'est un géographe et il s'est beaucoup intéressé à comprendre notre civilisation à travers le regard d'une autre civilisation. C'est assez rare et unique de pouvoir échanger avec une civilisation native, racine, et de regarder notre civilisation, de comprendre finalement la manière dont on vit à travers le regard d'autrui. Il n'y a pas d'autre manière ou d'autres meilleures manières pour le faire. Donc c'est un épisode qui est vraiment passionnant parce qu'il nous questionne, il nous permet de déconstruire des choses qui nous semblent évidentes, logiques et qui en réalité ne le sont pas du tout. Par exemple, de vivre dans un pays où il peut y avoir des guerres ou l'importance du rôle de l'argent, etc., etc. Je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé vraiment incroyablement intéressant. Allez, venant. C'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Je voudrais vous poser une question pour commencer qui est quasiment une question, je dirais, pas compliquée, mais en tout cas étonnante en ce moment. Et je voudrais vous parler du mot enthousiasme. C'est quoi la racine du mot enthousiasme?
Alors c'est un mot qui vient de loin et qui aurait voulu dire ou qui voudrait dire quelque chose comme traversé par Dieu. Mais comme Dieu est un petit peu connoté, en fait, on peut très bien le remplacer sans souci par traversé par la vie. En fait, être enthousiaste, c'est être reconnecté à la vie en soi. Et quand on arrive à être dans l'enthousiasme, on est dans la joie, on est dans une forme de légèreté. Et peut-être qu'on arrive à aborder les problématiques genre crise, par exemple, d'une manière un peu plus sereine.
Et c'est vrai que quand vous dites traverser par la vie, on a tendance à parler du mot environnement sans forcément réaliser que cet environnement, c'est nous. C'est comme si on parlait de notre corps et qu'il était à l'extérieur de nous. Il y a un peu de ça aussi, non, quelque part?
En fait, c'est comme si on vivait dans des petites boîtes. On vit beaucoup dans nos têtes, on est coupé de notre corps, notre sensation, on est très mental. Hein. Et puis ensuite, la deuxième petite boîte, c'est qu'on vit beaucoup en ville. On est à 85% des urbains dans les pays entre guillemets, dit développé. Et après, il y a encore une autre grosse boîte qu'on vit beaucoup dans nos croyances. Donc en fait, on est des gens enfermés un petit peu dans des petites boîtes. Et si on voulait retrouver le chemin de l'enthousiasme, il faudrait peut-être oser soulever les couvercles des trois petites boîtes.
Alors vous êtes allé à la rencontre d'un peuple racine, ou en tout cas d'une autre civilisation que sont les Indiens Kogi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris majoritairement, ou peut-être comment vous les avez rencontrés, et qu'est-ce que ça vous dit de la manière dont on vit nous aujourd'hui?
Alors, comment je les ai rencontrés? J'étais jeune, j'étais gentil, j'avais 25 ans, je sortais de formation qu'on appelle les grandes écoles où on vous serine que vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc quand on vous le serine pendant plusieurs années, vous finissez par y croire. Et on m'avait dit, au nord de la Colombie, à la plus haute montagne du monde, en bordure de mer, quand on est au sommet, paraît-il, on voit la mer des Caraïbes en bas, donc c'est 5900 mètres et 40 km plus bas la mer des Caraïbes. Donc à 25 ans, j'étais guide de montagne, j'ai voulu aller voir, vivre cette expérience. Et j'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, c'est de l'eau dans les poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous pouvez même plus vous mettre debout. Vous avez plus qu'à attendre de l'eau dans les poumons, ça gagne dans le corps, et vous n'avez plus qu'à attendre de vous noyer de l'intérieur. Et donc j'étais perdu dans ma montagne sans évidemment aucun moyen de secours, et j'ai eu la chance que ces Indiens, là, Kogi, ces sauvages comme on les appelle, ces archaïques, ces primitifs, ces autochtones, on a du mal à les nommer, passent par là et eu la gentillesse d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire et me ramassent, me mettent sur une mule, me recueillent, me soignent et me sauvent la vie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces Indiens. Alors, à l'arrivée des conquistadors en 1524, on estime qu'il y avait 1,5 million d'Indiens Tairona à l'époque, les ancêtres des Kogi actuels. Aujourd'hui, il en reste à peu près 25 000. Et en fait, ce serait la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si on pouvait discuter avec des Incas, des Mayas, des Aztèques, sans forcément dire ils ont tort ou ils ont raison, c'est pas le problème. Mais on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, ou le regard de l'autre, pour peu que j'aie l'humilité de l'accepter, éclaire mes zones d'ombre, éclaire ce que je ne vois plus de moi. Donc, qu'est-ce que j'en ai appris ? Oh, plusieurs choses. Par exemple, je me suis intéressé, moi je suis consultant dans ma vie de tous les jours, et je me suis intéressé à, finalement, quand on est consultant, on s'intéresse sur une entreprise à quelle est sa mission, à quoi elle sert. Mmh. Je me suis demandé à quelle est leur mission ? Est-ce qu'ils se sont fixés une mission, ces Indiens ? À quoi ils servent ? Et j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est soigner la terre. Voilà des gens qui consacrent une bonne partie de leur agenda, parce qu'au final, tout se résume à notre agenda, c'est-à-dire où est-ce qu'on affecte du temps. Et bien, ils en consacrent une bonne partie à soigner la terre. Et nous, on se rend compte que ne serait-ce qu'arroser les plantes vertes ou avoir un rapport à la terre, au territoire, on n'a pas beaucoup de place dans nos agendas, même une plante verte dans la maison. Et la deuxième mission que j'ai trouvée chez eux, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent tous les jours, c'est pas des, ils sont pas nés tranquilles, en paix, avec une petite auréole de saint sur la tête, c'est pas ça. Mais au cœur de leur système éducatif, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors je sais pas comment vous entendez ça, une société qui se met comme mission soigner la terre et apprendre à vivre en paix ensemble, quand on voit les milliards qu'on dépense pour des armements, et quand on voit les désastres à une époque où plus de 50% de la planète a été artificialisée, il y a plus de matière artificielle que de biomasse naturelle. Voilà, on laissera à ceux qui nous écoutent le soin de regarder qui est sauvage et qui est archaïque.
En fait, quand on entend ça, je crois que la première réflexion qui nous vient, c'est utopique, parce qu'en fait ça ne rentre pas dans notre système de fonctionnement. Donc nous on l'envisage de manière utopique en se disant bah c'est super, mais en vrai ça fonctionne pas. Et en fait ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites, c'est que en fait chez eux ça fonctionne. Alors la question que je me pose, c'est par exemple quel rôle ils donnent à l'argent, comment ça fonctionne, comment on peut être dans une société en paix aujourd'hui alors que on a tendance à penser que l'humain, il a des travers, et un de ses travers, c'est de vouloir avoir plus que son voisin, par exemple.
Bah, une société en paix, il faut déjà le vouloir. Est-ce que nous avons vraiment envie d'entrer en paix ? Je ne suis pas sûr. On a besoin de se construire identitairement ou comme nation contre les autres. C'est un premier miracle que depuis la création de l'Europe, quoi qu'on pense de l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne et la France ne soient pas rentrées en guerre. Mmh. Il faut déjà le vouloir, être en paix. Ensuite, il faut mettre un système éducatif en place qui aide les enfants à traverser leurs émotions, à partager, à coopérer. Et là, on se heurte de plein fouet et frontalement à l'éducation nationale, qui a des valeurs.